Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Quand je pense à ma lecture des œuvres d'Albert Camus, ce sont des images qui viennent. Des gouttes de lumière sur un paysage aride, la mer argentée et scintillante, et le soleil surtout, violent, pénétrant. À la fin de l'été dernier, je lisais sa nouvelle « Noce à Tipaza ». J'étais dans le Luberon et la lumière écrasait les champs face à moi. La description de la terre d'été d'un petit village algérien résonnait très fort, avec mes propres sensations. Et cette phrase magnifique m'est restée. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Comme si l'œil ne pouvait capter la luminosité, comme si le paysage s'obscurcissait sous la violence des rayons. La professeure de philosophie et autrice Marianne Chaillant a choisi une autre nouvelle d'Albert Camus. Elle qui s'est frayé un chemin original et personnel, en explorant notamment la pop philosophie, partage cette lecture, véritable guide dans ses choix, pour ne jamais céder à la facilité et au renoncement. Ou comment cette petite musique camusienne l'aide au fil du temps à trouver le courage de vivre le plus librement possible. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
Je suis dans mon bureau actuellement, qui se trouve à l'étage de mon appartement. Qui est un appartement duplex, donc, qui se trouve à Marseille. Et dans mon bureau, devant la fenêtre de mon bureau, il y a deux immenses platanes très majestueux que je vois puisque j'ai mis mon bureau contre la fenêtre. Donc, lorsque je travaille, lorsque j'écris, j'ai l'impression, étant à l'étage, que je suis totalement plongée dans le ciel et face à moi, j'ai ces deux platanes magnifiques. Au feuillage magnifique, et actuellement le Mistral souffle dedans, c'est très agréable. L'ambiance de mon bureau, c'est un joyeux chaos. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas toujours rangés. Il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de choses, vraiment. Mais c'est une pièce que j'aime beaucoup et dans laquelle je travaille. Dans laquelle je travaille non seulement comme enseignante, mais dans laquelle j'écris mes livres. Est-ce que je peux me rendre près de ma bibliothèque? Et dans quelle pièce se trouve-t-elle? Il se trouve que j'ai plusieurs bibliothèques dans mon appartement. Dans mon bureau, où je me trouve, il y a la bibliothèque de philosophie. Dans mon salon, j'ai une très grande bibliothèque qui couvre tout un pan de mur. Et dans cette bibliothèque qui est en bas, j'ai tout ce qui est littérature. Dans mon bureau, j'ai tout ce qui est philosophie. J'ai toujours, quels que soient les appartements dans lesquels j'ai vécu, j'ai toujours séparé ma bibliothèque en plusieurs endroits. Et j'ai toujours séparé la philosophie de la littérature. Sans doute, probablement, au regard des affects que me suscite la vue même des livres. C'est-à-dire qu'un livre, même fermé, j'ai l'impression, pour peu qu'on l'ait déjà lu, ou même si on ne l'a pas lu, mais qu'on lui devine un certain contenu. Le livre est une sorte de présence vivante dont il émane quelque chose. Et du coup, je n'ai jamais pu avoir des livres de philosophie dans ma chambre, par exemple, parce que j'ai toujours pensé que cela m'empêcherait de dormir, cela me mettrait des pensées trop peu propices, en tout cas, à la quiétude et au sommeil. Donc la philosophie se trouve dans le bureau. Dans la bibliothèque de littérature, elle est classée par... Alors, il y a tout un pan qui est littérature de l'Antiquité. J'ai beaucoup de Budet, beaucoup. Il y a tout un pan qui est littérature allemande. J'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup... Oui, vraiment, j'ai lu beaucoup de littérature allemande. Donc, il y a toute une partie littérature allemande. Il y a toute une partie qui est littérature russe. C'est probablement parmi les littératures étrangères, celle qui m'a le plus nourrie, marquée et qui continue encore à infuser en moi. J'aurais d'ailleurs pu choisir de parler d'un livre qui m'a bouleversée et que j'ai relu plusieurs fois, qui est L'Idiot de Dostoïevski, mais j'en ai choisi un autre, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc j'ai un rayon de littérature allemande, de littérature russe, donc j'ai plusieurs rayons de littérature étrangère, et puis j'ai la littérature française. Et au sein de chacun de ces rayons, je range les livres par ordre chronologique. En philosophie, c'est pareil. Donc, je classe en histoire de la philosophie, en sociologie, épistémologie, esthétique, psychanalyse. Et au sein de ces classements, à nouveau, je range par ordre chronologique. Que dit ma bibliothèque ? Elle dit sans doute que j'aime lire, que je lis beaucoup, que je lis des choses totalement éclectiques et que j'ai beaucoup lu aussi, puisqu'il y a tant de livres. Et elle dit... Je crois aussi que, et c'est très important pour moi, ma bibliothèque dit que l'objet livre est pour moi un objet esthétique en soi. Je suis toujours, il y a des appartements, il y a des maisons où il n'y a pas de livres, où les livres sont dissimulés derrière des bibliothèques fermées. Je trouve que les livres sont vraiment des objets esthétiques et les bibliothèques en particulier. Et donc voilà, peut-être que ma bibliothèque dit... à la fois le rôle que les livres ont joué en eux-mêmes, et puis aussi la fonction esthétique que je leur accorde. Est-ce que je partage cette bibliothèque avec quelqu'un ? Notamment, je la partage avec ma grand-mère, qui est hélas décédée, mais qui était une très grande lectrice. Et j'ai hérité de sa bibliothèque. Donc déjà, la mienne était immense. Mais maintenant, j'ai cette bibliothèque en plus de ma grand-mère. Alors, il y a des livres qu'elle avait, que j'avais déjà moi-même, et que je garde quand même parce que ces livres sont parfois annotés de sa main. Elle a souligné des phrases. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à trouver ces phrases qu'elle a jugé bon de souligner. Et je cherche à chaque fois pour quelle raison cette phrase-là, plutôt qu'une autre, a su retenir son attention. Donc une partie de ma bibliothèque, c'est pour ça que j'ai vraiment des livres partout dans la maison et constitué des livres de ma grand-mère, dont d'ailleurs une partie elle-même se trouve chez ma mère. J'ai chez ma mère encore ma chambre. Et dans cette chambre, j'ai encore un pan de mur qui est tout entier occupé par des livres. Donc vous voyez, ma bibliothèque est un peu éclatée en plusieurs endroits. Il fallait choisir un livre qui nous tienne à cœur, et c'est très difficile de choisir un livre sans avoir l'impression d'être profondément ingrat à l'égard de tous les autres. Mais j'ai choisi, dans un livre d'Albert Camus qui s'appelle « L'exil et le royaume », j'ai choisi une nouvelle, la première nouvelle qui ouvre le recueil, une nouvelle qui s'appelle « La femme adultère ». Je ne sais pas dater le premier moment où j'ai lu un livre de Camus. Je pense que ça doit être au collège. Mais en seconde, notre enseignante de français nous a fait lire « L'exil et le royaume ». Cette femme, j'espère que vos auditeurs ont eu semblable professeur dans leur vie, mais je la vois encore, je la vois entrer dans la salle avec une espèce d'élégance extraordinaire. Elle incarnait la littérature. En fait, notre professeur de français était la littérature incarnée. Je dirais donc que Camus est déjà un compagnon de route, puisque cela fait plus de 20 ans, peut-être 25 ans, que je lis Albert Camus. Alors, c'est pas simplement un compagnon de route comme d'autres auteurs qu'on a lus très tôt et qui nous accompagnent. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de fraternité avec, peut-être parce que je le lis depuis toujours, peut-être parce que le fond de sa, ce qui transparaît de son, de sa façon d'éprouver le monde et de le dire, mais étrangement familière. C'est étonnant, mais je crois que quand on est un lecteur passionné, on trouve chez certains auteurs et on constitue avec certains auteurs une sorte de famille de cœur. Et certains auteurs comptent dans notre vie, on les affectionne comme on pourrait aimer un membre de sa famille. Et Camus, assurément, fait partie de ma famille affective et mentale. Sa couverture est très belle. C'est un tableau de Nicolas de Staël. J'ai acheté mes exemplaires d'Albert Camus à une époque où Folio, Gallimard, avait choisi comme couverture d'Albert Camus une série de tableaux de Nicolas de Staël. Et je trouve ça un choix absolument parfait. Je trouve que l'œuvre de Staël et l'œuvre de Camus se répondent très bien. Les pages ont l'odeur de ces vieux livres qu'on a, qui sont dans notre bibliothèque depuis un certain temps. Le papier n'est pas tout à fait jauni, mais tout de même, il n'est plus blanc du tout. Qu'est-ce qui m'a immédiatement marqué dans cette nouvelle ? Je vais vous dire la vérité, même si elle est choquante ou drôle. Quand j'ai ouvert le livre, la première page de cette nouvelle, l'héroïne, Janine, se trouve avec son mari, Marcel, dans un autocar. Et pendant deux pages qui m'ont paru être une éternité, elle observe le vol d'une mouche dans l'autocar. Et il fait chaud dans ce bus. Elle a chaud parce que ce bus roule en plein désert. Donc, elle a chaud. Il y a du monde. Il y a une mouche qui vole. Probablement, le texte a si bien marché sur moi que j'ai trouvé ce début absolument épuisant. Et je voulais arrêter parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de mouche ? Qu'est-ce que c'est cette histoire d'autocar ? Mais quelle horreur ! Ce début a été affreux et j'avais envie de poser le livre. Donc, ce qui m'a marqué, c'est d'abord ce sentiment que ce texte allait être parfaitement ennuyeux. Manifestement, il ne l'a pas été puisque j'en parle aujourd'hui. Alors, qui est cette femme, Janine, qui se trouve dans un autocar avec son mari, Marcel ? Que font-ils là ? C'est un couple. Bon, dans mon souvenir, je ne sais pas, je leur donne, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, vous voyez, mais 20 ans plus tard, je leur donne une cinquantaine d'années, quoi. Il est commerçant, il a un petit magasin, et comme les ventes se font moins bonnes, il a décidé, Marcel, de faire des marchés dans les villes et les villages alentours, et sa femme, Janine, a décidé, pourquoi pas, de le suivre dans l'une de ses tournées. Et donc, ils sont tous les deux dans l'autocar, puisque, dans mon souvenir du moins, Marcel veut aller vendre ses habits sur un marché. Sauf que cet autocar est en train de traverser les paysages arides de l'Algérie, puisque, me semble-t-il, ils sont en train d'accéder au dernier village qui se trouve face au désert. Je me rappelle qu'elle regarde, Janine, elle regarde l'homme qui est assis en face d'elle, qui n'est pas son mari. Et je me suis dit, tiens, c'est ça alors, la femme adultère, puisque la nouvelle s'appelle La femme adultère. Donc je me suis dit, est-ce que ça va être ça ? Est-ce que Janine va tromper son mari avec ce bel homme qui se trouve assis en face d'elle ? Donc après ce long voyage épuisant, lorsqu'ils arrivent dans ce village face au désert, Janine n'a qu'une envie, c'est de monter en haut des fortifications pour voir le désert, enfin. Moi, je n'avais jamais vu le désert, je ne l'ai toujours pas vu quand j'ai lu le livre, mais je comprenais très bien son désir de voir le désert. Je comprenais que si on a la chance d'aller là-bas, d'être si près du désert, on n'a qu'une hâte, c'est de le voir. Et je comprenais aussi que le voir serait assurément une expérience extrêmement forte. Elle veut y aller et son mari, lui, est fatigué, il veut aller à l'hôtel, ça le gonfle, il est crevé, alors elle est obligée de le tirer un peu par le bras. Allez, s'il te plaît, viens, on y va. Et il a chaud. Il est un peu. L'image que j'ai de son mari est celle d'un homme un peu rond, qui transpire, qui n'a pas envie. Et elle, elle lui dit, s'il te plaît. Et finalement, il finit par monter en haut du fort. Et l'ascension elle-même leur coûte. Et quand elle arrive là, en haut du fort, elle a effectivement cette sorte de, d'extase, d'expérience extatique. Et là, dans mon souvenir, on a un flashback. Et on revient de nombreuses années en arrière, lorsque Janine n'était qu'une adolescente. C'était une adolescente au lycée d'Alger, peut-être, j'imagine. Prometteuse, avec du talent, des capacités intellectuelles, des possibles. Et dans le lycée où elle était, il y avait ce jeune garçon qui la courtisait, qu'elle n'aimait pas vraiment et pour qui elle n'avait absolument pas du tout d'élan ni de passion, pas du tout. Mais ce brave garçon, justement, était très sécurisant. Il l'était parce que ses parents, à lui, Marcel, puisque c'était Marcel, avaient un magasin et elle se disait « Bon, si toutefois je devais faire ma vie avec lui, je me mettrais à l'abri du besoin. » Ça paraît affreux de dire ça, mais il ne faut pas juger sans ça. Elle se dit « Bon, voilà, avec un homme pareil, il ne me fera pas de mal. Je ne serai jamais démunie, il a un peu de bien. » Donc voilà, l'alternative qui était la sienne, le risque, le chemin aventureux, ou alors le choix de l'existence confortable. Manifestement, on comprend qu'elle a fait le choix de l'existence confortable. Et elle se retrouve face au fort. On revient donc à la scène première. Elle est là, sur le fort, face au désert. Et le désert va la frapper comme l'image symbolique de ce champ de possibles auquel elle a renoncé étant jeune. Et d'ailleurs, dans ce désert qui s'étend devant elle, elle voit au loin quelques points, quelques taches qui se déplacent à l'horizon. Et ces quelques taches qui se déplacent à l'horizon, elle comprend que ce sont des nomades. Et Camus dit, je n'ai pas la page exacte, mais fait dire à Janine dans ses pensées, me semble-t-il, que les nomades, ce sont des seigneurs misérables et libres d'un étrange royaume qui ne possédait rien, mais ne servait personne. Et on a l'impression que cette femme est en exil dans sa propre vie, et face à elle, elle voit des gens qui ont fait le choix d'une existence périlleuses, qui ont lâché quelque chose, mais qui ont, en contrepartie de ce prix-là, du risque, ont acquis une liberté. Voilà. Ne possédaient rien, mais ne servaient personne. Et donc, voilà, elle est là, bouleversée, saisissant peut-être pour la première fois à quel point elle s'est emmurée dans sa propre vie. On sent cette femme qui se dit là, quoi, c'était ça ma vie, c'est ça que j'en ai fait, en fait. Et à ce moment-là, son mari lui tire le bras, « Allez, viens, il faut rentrer, on est fatigué. » Bon, donc ils redescendent, ils vont à l'hôtel. Le soir arrive, Marcel va se coucher, elle aussi, il s'endort. Et quand il s'endort, que fait-elle? Elle va retrouver le désert. C'est-à-dire qu'elle remonte sur le fort. Et là, dans cette nuit étoilée, face au désert, c'est une très belle page, elle rejoint le désert, elle rejoint cette vie qu'elle aurait pu choisir et qu'elle n'a pas choisie. Mon idée fixe a été comment ne pas devenir cette femme. Comment ne pas un jour me retourner sur ma propre vie à 50 ans et me dire « Quoi ? C'était ça, ma vie ?» À 16 ans, grâce à Camus et grâce à mon enseignante de français, Madame Dilat, je me suis dit « Quel choix dois-tu faire ?» Ou « À quoi, surtout, ne dois-tu pas céder ?» pour ne pas devenir cette femme qui se rend compte qu'elle n'a pas vécu. La leçon de cette nouvelle, plus tard, j'ai, et c'est ce que je fais aujourd'hui, maintenant que je suis devenue enseignante en philosophie, je l'interprète avec un philosophe qui s'appelle Heidegger, qui, dans un livre qui s'appelle « Être et temps », développe un certain nombre de concepts extraordinaires. Alors Heidegger, rapidement, qu'est-ce qu'il en dit ? Heidegger, c'est un philosophe de la liberté. Il pense que l'homme est foncièrement libre, libre de choisir sa propre vie, de se déterminer lui-même, de construire son existence. L'homme existe. Et exister, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir la capacité de se déterminer soi-même, la capacité de se définir soi-même.
Pour autant, nous dit Heidegger, cette liberté fondamentale que nous avons, nous y renonçons, tous, toujours, sans exception, pour commencer, et nous préférons laisser glisser dans ce qu'il appelle la dictature du « on ». La dictature du « on », c'est cette présence anonyme, sournoise, des autres autour de nous qui nous dictent nos conduites, nos pensées, nos goûts. Et finalement, alors que nous avions la capacité à penser par nous-mêmes, à choisir par nous-mêmes, à aimer par nous-mêmes, en littérature, etc., avoir des goûts propres, nous nous fondons dans la masse. Étonnamment, alors que nous avions la possibilité d'être un moi, nous préférons renoncer à cette capacité pour rentrer dans le troupeau. Parce que c'est plus confortable, parce que c'est moins difficile, parce qu'il est beaucoup plus facile de renoncer que de vivre. Et ce choix de se laisser glisser dans la dictature du « on », Heidegger l'appelle l'existence inauthentique. Nous avons la capacité de mener une existence véritable et nous préférons, bizarrement, alors même que chacun d'entre nous dirait le contraire, chacun d'entre nous dirait qu'on a envie, autant que faire se peut, d'être quelqu'un de singulier, de quelqu'un de différent des autres, d'exister à titre individuel. Eh bien, ce que Heidegger montre, c'est que nous cédons et nous sommes dans la moyenne. Nous faisons ce qu'il est de bon ton de faire. Nous pensons ce qu'il est de bon ton de penser. Nous aimons ce qu'il est de bon ton d'aimer. Bref, nous sommes un mouton. Et ce que dit Heidegger, c'est que tous nous commençons par là, par cette existence inauthentique. C'est-à-dire, nous commençons tous par ce renoncement à notre liberté. Pour autant, ce renoncement n'est pas nécessairement définitif. Nous avons le moyen de sortir de cette existence inauthentique. Il y a deux moyens, parmi lesquels, donc, faire l'expérience de l'angoisse et penser à la mort. Penser à la mort qui vient. Penser à la mort nous met dans une situation d'urgence de commencer à vivre. Telle est la lecture que je fais de La femme adultère de Camus. Je vois cette nouvelle comme un texte qui permet de déclencher en nous à la fois l'angoisse et à la fois la pensée de la mort qui vient, cette pensée que la vie va passer très vite et qu'on va très vite se transformer de cet être de possible à cette personne qui se retourne sur sa propre vie et à la nécessité du coup de ne pas céder à cette existence inauthentique mais d'affronter le risque d'exister. Je dirais que cette nouvelle m'a aidée vraiment, mais de manière diffuse, latente, à chaque carrefour, à chaque fois que s'est posé pour moi le choix entre la facilité de la route commune et la crainte que peuvent inspirer les chemins de traverse. Je ne peux pas dire une fois en particulier, mais il se trouve que Janine a envie de faire des études et pour cela, cela signifierait de quitter sa ville natale. 2 ans après avoir lu ce livre, j'avais moi-même le choix entre rester à Marseille pour y faire ma classe préparatoire, ou partir à Paris. Et probablement, si j'ai fait le choix de partir à Paris, c'est sans doute parce que j'avais lu ce livre de Camus. Je ne crois pas l'avoir beaucoup relu. Et en même temps, il y a des textes qu'on n'a pas forcément relus, mais dont la lecture a été tellement illuminante, tellement foudroyante, que c'est des textes qui sont comme écrits au fer rouge en nous. Je pense que si j'avais lu ce texte plus tard, il est possible que je me sois reconnue dans le personnage de Janine. C'est-à-dire que vraiment, je considère le rôle qu'a joué cette nouvelle comme un rôle crucial dans ma vie. Ça a été un garde-fou. Janine est un personnage qui revient dans ma vie à chaque fois que se pose un choix de cet ordre-là. Et ça a été un garde-fou qui m'a toujours permis d'avoir le courage de franchir le mur qui me séparait de mon désert et d'oser aller cheminer dans le désert. J'ai redécouvert un peu, là, ces jours-ci, le pouvoir extraordinaire de Nietzsche. Oui, extraordinaire. Mais j'ai envie de vous parler, non pas de Nietzsche, mais de quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, qui est un philosophe vraiment pareil. C'est un libérateur, c'est quelqu'un qui fait du bien. Il s'appelle Ruven Ogien. C'est un philosophe qui a beaucoup écrit sur les questions de morale. Bon, si je vous dis ça, ça donne peut-être pas envie de le lire. Mais ces livres sont très accessibles. Vous pouvez les lire sans vous dire au bout de 4 lignes que décidément la philosophie, c'est trop abstrait.
Je sais pas, je vous conseillerais peut-être de commencer par mon dîner chez les cannibales, qui est une compilation d'articles qu'il avait fait paraître et qui donc est très accessible sur des thèmes divers. Et il y en a un dont le titre est savoureux, qui s'appelle « De l'influence, de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine ». C'est un livre très drôle, fait d'expériences de pensée, du coup un peu interactif. Vraiment un philosophe qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, qui dynamite tout un certain nombre de poids, de fardeaux que peuvent constituer le discours ambiant et la morale sur vos existences individuelles. C'est pour ça que je parlais de lui comme d'un libérateur. Vraiment, c'est un philosophe que je recommande à tout le monde. Si le début de l'année 2020 pouvait être pensé par un philosophe, lequel serait-il ? Je pense que ce début d'année nous inclinait à relire les stoïciens. Les stoïciens, ce sont ces philosophes de l'Antiquité qui cherchaient à nous donner les moyens d'atteindre ce qu'ils appelaient l'ataraxie, c'est-à-dire le bonheur ou du moins l'absence de troubles. Et pour atteindre cette absence de troubles, ils nous donnaient des moyens, des exercices très concrets qui se trouvent dans leurs livres, pour bâtir et pour nous réfugier dans notre citadelle intérieure, afin que les maux du monde extérieur ne nous affectent pas. Donc je pense que retranchés dans nos appartements, confinés dans nos appartements, nous aurions eu besoin aussi de pouvoir nous sentir à l'abri dans notre esprit, dans notre citadelle intérieure spirituelle, avec la philosophie des stoïciens.
Vous venez d'écouter Marianne Chaillant à son micro et elle répondait aux questions envoyées par la journaliste Maud Ventura. Elle vous recommande la nouvelle d'Albert Camus, « La femme adultère », extraite d'un recueil du même nom et disponible en folio. Marianne Chaillant est professeure de philosophie et écrivaine. Elle signe des essais comme « Harry Potter à l'école de la philosophie » ou « Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur ». Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Si un ami ou une amie vous demande des conseils de lecture pour l'été, n'hésitez pas à conseiller le Book Club autour de vous. Bonne écoute et à très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettres Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettresola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.